Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
La suite de votre week-end des experts auto avec Jean-Luc Moreau qui est plongé dans vos réactions sur Direct Studio.
Ouais, je regardais, Jean-Luc. Je regardais Thierry qui nous écrit qu'il a une Prius 2 de 2009, donc plus toute jeune, qu'il a acheté il y a 2 ans à 120 000 km. Il a mis un boîtier dessus et maintenant il a 320 000 km, donc il a fait 200 000 km à l'éthanol, zéro souci.
Pas mal.
Ouais. Ouais. On voit encore une fois la fiabilité Toyota, hein, ça c'est clair. Fabrice qui nous dit ça serait bien de parler des auto-écoles qui peuvent faire passer des examens à leurs élèves mais n'ont pas le droit de les former. On évoque tout ça tout à l'heure en fin de ce rendez-vous.
Exactement, on évoquera ça avec le président du CNPA et c'est vrai que on va mettre le doigt sur certaines incohérences en fait de ce confinement, mais c'est un petit peu normal parce que ça s'est fait dans la précipitation. Il n'y a pas forcément des réponses à tout pour l'instant et on vous dira tout à l'heure justement ce qui reste ouvert, pas ouvert, ce qu'il est possible de faire avec sa voiture, etc. etc.
Voilà, et puis n'hésitez pas à réagir à ce rendez-vous auto. Vous pouvez à tout moment joindre Jean-Luc Moreau pour poser vos questions. 3216, l'appli RMC Direct Studio. Et puis on salue aussi tous ceux qui nous écoutent en différé, hein, via le replay sur l'appli RMC en podcast ou sur d'autres supports. Merci en tout cas d'être là. Jean-Luc, Anthony nous attend au 3216.
Oui, bonjour.
Bonjour Anthony.
Bonjour Anthony.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où ?
Du Tarn, à côté de Castres.
Parfait. Et vous allez nous parler de votre Honda Civic Sport.
Qui n'est pas encore à moi. C'est un projet d'acquisition. J'ai hésité sur plusieurs modèles, soit entre la Fuego ou la Civic, mais j'ai préféré la Civic.
Bah, écoutez, c'est un choix. Voilà.
C'est des accessoires et le moteur qui m'ont fait, pencher dans la balance.
On peut comprendre, on vous pardonne.
La fiabilité peut-être aussi un peu, non ?
Il paraît, ouais. C'est pour ça que. C'est pour ça. Et donc, je voulais savoir, parce que je suis intéressé pour sans doute soit mettre un boîtier, mais j'ai entendu parler de la reprogrammation. Et savoir si ça gardait les garanties ou même au niveau des assurances.
Oulala. Alors, il y a plein de questions dans votre question. Bon, d'abord, la Civic, elle est de quelle année, vous m'avez dit ?
C'est la 2017. D'accord. La 1.5 Sport Plus en 182 chevaux.
D'accord. Bon, côté fiabilité, c'est zéro souci. Je crois même pas qu'il y ait un seul défaut qui a été relevé à ce jour sur ce moteur-là. Donc, vous pouvez presque y aller les yeux fermés. Alors, après, le vrai souci, c'est que quand vous parlez d'éthanol chez Honda, tout de suite, ils sortent les armes lourdes. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience il y a quelques années, en fait, d'installation de boîtiers sur des moteurs. Comme je vous ai dit, les moteurs, c'est zéro souci en matière de fiabilité. Ils ont eu des problèmes.
Ouais.
Et donc, ils ont interdit au réseau d'installer des boîtiers sur les moteurs Honda. Pourtant, il y a certains petits malins qui l'ont fait depuis, et a priori, ça marche. Mais c'est pour ça que je veux me mettre quand même en garde. Si ça fonctionne, le risque zéro n'existe pas en la matière.
Oui.
Donc ça veut dire que vous allez acheter un moteur qui est fiable, avec le risque de dégrader la fiabilité si vous mettez un boîtier. Alors là, je parle de boîtier, parce que reprogrammation, de toute façon, c'est interdit. Donc moi, je vous parlais de boîtier homologué. Hein.
Mais c'est comme sur Internet et beaucoup de sociétés en font la pub de ça, de la reprogrammation.
Bah oui,
et
là,
c'est
là,
quand
là,
même moitié moins cher.
Bah oui,
au niveau
mais on est d'accord, mais malheureusement, c'est pas homologué. Donc pas homologué, ça veut dire que au niveau
pas de garantie,
votre
rien du tout.
Voilà, alors vous perdez toute garantie auprès du constructeur, c'est-à-dire même la garantie des vis cachées, vous savez, hein, le truc qui vous tombe en panne, vous avez une soupape qui grille. Bon, il y a peu de chances que ce soit le cas, mais vous avez si votre voiture a moins de 5 ans, vous pouvez toujours demander au constructeur d'intervenir. Là, vous perdez ce bénéfice-là. Ils se rendront compte quand vous emmènerez la voiture chez Honda qu'il y a une reprogrammation. Il est possible d'ailleurs qu'ils vous l'effacent. Parce que ça, c'est quand même quelque chose que les gens qui font de la reprogrammation oublient de vous dire. C'est quand vous emmenez votre voiture en concession, ils se doutent bien qu'il y a une reprogrammation. Au moment où ils branchent la fameuse valise, si en plus il y a une mise à jour de la cartographie de la voiture qui est prévue, la mise à jour de la carto, elle va effacer cette reprogrammation qui a été faite. Donc il faudra repayer derrière pour refaire une reprogrammation.
Oui.
Et qui aura pas forcément la dernière mise à jour en plus qui a été faite par le constructeur, qui souvent sont des mises à jour pour améliorer la fiabilité. Voilà. D'accord. Alors donc c'est illégal, premier truc. Deuxième chose, en cas de panne, bah, vous avez aucun recours auprès du constructeur. Et puis, troisième chose, si vous avez un gros carton et que votre assureur se penche d'un peu près sur votre voiture, il est possible que vous ne soyez pas indemnisé.
Voilà, bah, c'était surtout les points principaux qui me faisaient poser la question.
Voilà,
et qu'on ne trouve pas trop sur Internet.
Non, non, oubliez carrément la reprogrammation. Franchement,
d'accord. Et le boîtier, par contre, donc on donne le...
Ah bah ils vous le montreront pas, parce que à moins qu'on ait changé d'avis depuis que on en a discuté ensemble, ils étaient réfractaires à l'installation de boîtier sur leur moteur.
D'accord, même si on passe par une entreprise qui est homologuée.
Oui, mais si les vendeurs, les gens qui fabriquent des boîtiers, aujourd'hui il y a 4 sociétés qui font des boîtiers, 5 sociétés qui font des boîtiers homologués, ou 4, je sais plus, 4 ou 5, eux, oui, vous vendront un boîtier qui va être homologué. C'est le boîtier qui est homologué pour la catégorie de votre véhicule. Maintenant, si Honda dit faut pas en monter, vous pouvez toujours tenter le coup. Mais vous êtes prévenu que le constructeur, lui, il veut pas qu'on monte des boîtiers sur ses moteurs.
D'accord.
Mais vous pouvez en acheter un et le faire monter.
D'accord.
C'est un risque à calculer.
Oui, parce que c'est surtout une voiture qui va, entre guillemets, une voiture du dimanche, parce que je garderai ma vieille Clio pour aller au
plus,
travail.
Attendez, vous
donc
allez
ça vaut pas le coup.
Mais non, vous allez dépenser pas loin de 1000 euros dans un boîtier, vous rentabiliserez jamais si vous roulez pas beaucoup.
Bon, ce sera une dizaine de milliers de kilomètres par mois, par an, quoi.
Ouais, non, franchement, c'est prendre un risque inconsidéré, je trouve.
D'accord. Eh ben, c'est parfait.
Voilà, Anthony. Bon, ça vous va?
Eh ben, c'est parfait. Au moins, j'ai mes réponses.
Eh bien, voilà. Bonne journée à vous.
Bonne journée, Anthony.
Merci beaucoup.
À bientôt. Si tout comme Anthony, vous voulez joindre Jean-Luc, profitez-en, 3216, l'appli RMC Direct Studio. On enchaîne avec Patrice, qui est avec nous. Bonjour, Patrice.
Oui, bonjour, François.
Bienvenue.
Merci.
Patrice Duvar aussi, ça fait notre deuxième auditeur du Var, ça fait beaucoup quand même, hein, Jean-Luc?
Oui, non, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans le Var.
Ouais,
j'ai pu le mesurer la semaine dernière, franchement, à Marseille, il y avait un monde. Alors, absolument fou.
Marseille, c'est pas dans le Var.
C'est pas dans le Var, c'est les Bouches-du-Rhône, je le sais. Non, mais il y a des gens qui venaient du Var, qui ont fait le déplacement pour venir.
Ils sont venus par erreur, vous voir, c'est pas possible.
Oui, je pense qu'ils pensaient que c'était vous, c'est pour ça. D'ailleurs, en arrivant, ils m'ont dit, il est où François?
Il est pas là. Vous êtes où dans le Var, Patrice?
Carcès, près de Brignoles.
Carcès, d'accord. Et on vous écoute. Jean-Luc vous écoute.
Oui. Bonjour Jean-Luc, j'ai acheté un Tiguan en 2014 avec 120 000 km, un Tiguan 4 roues motrices, 140 chevaux, avec une boîte auto type Tronic.
Alors attendez, une boîte auto type Tronic, ça n'existe pas sur le Tiguan, c'est quoi votre boîte?
Si, c'est une boîte automatique.
Une boîte avec un convertisseur?
Oui.
Ou une DSG?
Non, convertisseur, c'était 2010, c'était un 2010. Hein.
D'accord.
Et j'ai acheté d'occasion en 2014, et il avait 120 000 km.
Elle vient d'Europe, votre voiture, ou elle vient de...
Oui, de France. C'était un mars 2010, 140 chevaux, 4 D'accord. motion.
Voilà, vous me posez une vraie colle. Parce que je pensais que, en fait, les vraies boîtes automatiques à convertisseurs n'avaient pas été commercialisées en Europe. Elles ont été commercialisées sur d'autres marchés, en particulier aux États-Unis, mais je ne savais pas qu'elles avaient été commercialisées en Europe. Bon, bref, donc vous avez un Tiguan avec une boîte automatique.
Voilà, boîte automatique, qui a maintenant il y a plus de 200 000 km.
D'accord.
Et quand je l'ai acheté à 120 000, j'ai voulu faire la vidange du pont arrière, puisque ça n'avait pas été fait. Donc je l'ai emmené chez Volkswagen, et à cette occasion j'aurais demandé aussi pour la boîte auto s'il fallait faire la vidange. Et là ils m'ont dit non, c'est pas utile sur les boîtes type Tronic, c'est pas nécessaire.
Bah bien sûr. Voilà. Alors, je vais vous répondre la même chose qu'à tous les gens qui nous appellent en disant ouais, mon concessionnaire m'a dit que c'était pas la peine. Franchement, tout ce qui a de l'huile à l'intérieur, l'huile ça s'abîme. Il y a pas de l'huile qui peut rester pendant des siècles. Des siècles. Vous savez pourquoi je dis des siècles? Parce que j'étais en train de penser au moment où je dis il n'y a pas d'huile qui peut rester des siècles. Je pensais au bateau grec qui avait coulé. On a retrouvé des amphores avec de l'huile dedans. Bon, personne ne l'a consommé hein, quand même. Avec de l'huile d'olive. Mais une huile qui est dans un mécanisme qui va être soumise à des pressions, à des fortes températures, à des efforts de cisaillement, qui va, quand elle refroidit, quand elle se réchauffe, absorber de l'humidité et qui va s'oxyder, elle perd ses qualités de l'huile. Franchement, d'ailleurs, quand vous, sur certaines voitures anciennes où les vidanges de pont ou les vidanges de boîte n'ont pas été faits depuis longtemps, quand vous vidangez, l'huile, elle a une couleur épouvantable et ça pue. Donc, on se doute bien qu'elle a perdu ses qualités, l'huile. Donc,
mais pourtant, quand on regarde, on écoute un petit peu les forums, effectivement, les avis sont effectivement partagés.
Non, mais les avis sont partagés, mais le fabricant des boîtes automatiques, lui, il n'a pas d'avis partagé. Il dit, il faut faire la vidange. La vidange, c'est entre 60 et 80 000 km. Il n'y a aucun fabricant de boîte automatique sérieux, enfin il n'y a aucun fabricant de boîte automatique tout court qui vous dira on ne fait pas la vidange d'une boîte, c'est pas vrai.
D'accord.
Et je dirais que c'est même plus essentiel de faire la vidange d'une boîte automatique que la vidange d'une boîte mécanique. Parce que les efforts sont encore plus importants et surtout dans une boîte automatique, vous avez tout un tas de petits passages hydrauliques de l'huile. Une huile qui a perdu ses qualités, vous allez avoir un passage des rapports qui va être plus brutal, vous allez avoir du patinage, vous allez gagner en agrément à faire la vidange de votre boîte automatique. Donc il faut la faire.
D'accord. Il faut la faire. Avec quel type d'huile, s'il vous plaît? Je dois aller chez Volkswagen ou je peux trouver ça dans les fournisseurs?
Alors aujourd'hui, vous avez aujourd'hui dans les centres auto, il y en a certains qui sont équipés avec des machines. J'en parlais tout à l'heure, qui font une vidange automatique. Voilà. Mm-hmm. Vidange automatique des boîtes automatiques. Voilà. Et ils vous donneront le bon lubrifiant. Vous dire ce qui va comme huile dans votre boîte auto, là, comme ça, je.
C'est compliqué à faire, je pense.
Alors vous pouvez pas le faire vous pouvez pas le faire vous-même. Vous lancez pas là-dedans, vous êtes pratiquement sûr de mettre la boîte en panne. Donc surtout le faire soi-même. C'est pas comme une vidange de moteur. Hein. C'est plus complexe que ça. Surtout il faut exactement la bonne quantité d'huile. Il faut souvent changer. En plus il y a souvent un filtre ou une crépine qui est délicate à changer. Donc faut pas se lancer dans la vidange d'une boîte auto soi-même.
D'accord, très bien, merci. Une petite deuxième question, si c'est possible, si j'ai un peu de temps.
Allez-y.
J'ai mon fils qui a une Seat Leon 110 chevaux de 2000, qui a 320 000 km, donc il veut la changer, et il serait éligible à la prime à la conversion.
Ouais.
Et il serait intéressé par la nouvelle Mazda 3, en modèle, par contre, la Skyactiv X, en 180 chevaux, parce que la 122 n'est pas éligible, puisqu'elle a un taux de CO2 plus supérieur. Et la 180,
vous avez remarqué le paradoxe, hein, 122 chevaux pas éligibles, 180 chevaux éligibles.
On est d'accord.
Et en plus, Mazda est sans doute le constructeur qui triche le moins sur les émissions de CO2. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas des moteurs downsizés comme les autres constructeurs. Vous savez, ils ont des petits moteurs. Vous prenez par exemple le PureTech PSA, qui est un moteur 1,2 litre avec un turbo, donc qui, pour l'homologation, est très intéressant en matière d'émissions de CO2, mais dans la vraie vie, va vous donner des consommations qui sont plus importantes. À l'inverse, Mazda a choisi de mettre des gros moteurs.
Oui, c'est un 2 litres.
Voilà, là, c'est un 2 litres avec un taux de compression très élevé qui, à l'homologation, ne va pas être forcément le meilleur dans sa catégorie, mais en revanche en usage réel va être très proche des chiffres normalisés, c'est-à-dire qu'en gros vous ne consommerez pas plus que ce que vous indique la fiche du constructeur, ce qui est quand même assez rare.
En termes de fiabilité, ce nouveau type de moteur, est-ce que
c'est très bien, c'est jusque-là, enfin, de ce que j'ai moi comme retour, c'est fiable. J'ai pas vu de gros soucis. Il y en a eu quelques-uns sur les Skyactiv diesel, mais sur les moteurs essence, a priori il n'y a pas de soucis.
En boîte manuelle plutôt que boîte auto, parce que là c'est une boîte convertisseur.
Oui, mais c'est une boîte convertisseur qui est fabriquée par Mazda et qui est une excellente boîte automatique en plus.
D'accord. Mazda, c'est une marque assez fiable pour ce type de...
C'est une marque très fiable. C'est vraiment une marque d'ingénieur qui a toujours des technologies qui sont originales. Originales dans le sens où, pour résoudre des problèmes, ils ont un raisonnement qui est un peu différent des autres constructeurs. Par exemple, pour réduire la pollution sur les moteurs, ils réduisent la pollution dans la chambre de combustion. Ils ne font pas derrière un système d'échappement avec 15 000 filtres. Et je trouve que c'est une bonne approche. Et en matière de fiabilité, c'est mieux, évidemment.
D'accord. Très
voilà
bien.
Patrice. Et puis c'est une belle auto.
Merci beaucoup.
La Mazda 3, c'est une belle voiture.
Une belle voiture. Bon, très bien. Merci beaucoup. Bon dimanche, Patrice.
On va revenir dans un instant, Jean-Luc. On va poursuivre avec vos questions, bien sûr, au 32-16. Voilà, tous les sujets liés à l'automobile, tout comme notre auditeur à l'instant, mais vous pouvez peut-être aussi avoir des questions sur un nouveau véhicule que vous aimeriez vous offrir. Quel carburant choisir? Voilà, enfin, il y a énormément de sujets qu'on peut évoquer ensemble dans le monde de l'automobile. N'hésitez pas, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite après la météo.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Oui. 8h26 en ce dimanche matin. Merci d'avoir choisi RMC, le week-end des experts de l'automobile. Dans quelques instants, nous aurons William des Yvelines qui se pose la question. Il fait entre 80 et 100 km par jour. Est-ce que passer un véhicule électrique pour lui est pertinent, Jean-Luc?
Ça peut. Tiens, on a Jeff qui nous précise. On parlait des boîtes auto là. Il dit, et il a raison, mais je rentre pas dans le détail technique à chaque fois, mais une boîte automatique, pour la vidange, il faut être à une température très précise. C'est-à-dire, il faut vraiment presque au degré près. Quoi.
Tiens.
Ouais. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas chez soi ce genre de plaisanterie.
Exactement. Jean-Luc, maintenant on va parler de véhicules un peu vintage, de la nostalgie, un peu la madeleine pour beaucoup d'entre nous. Il s'agit de la deux chevaux. Et attention, pas n'importe quelle deux chevaux.
La Charleston fête ses 40 ans. La deux chevaux qui est la voiture de collection préférée des Français. Et c'est vrai qu'on a un attachement particulier avec la deux chevaux. Même les plus jeunes, ils ont forcément croisé une deux chevaux à une époque dans leur vie. Souvenez-vous, François, peut-être que quand vous étiez plus petit, quand vous voyiez une deux chevaux verte, vous pinciez vos petits camarades. Vous avez jamais fait ça?
Je pinçais mes camarades.
Non, une deux chevaux vertes, tiens, quand on voyait une deux chevaux vertes, il y avait des deux chevaux vertes.
Non, mais vous savez, on a quand même.
Moi, j'étais beaucoup plus âgé que vous.
On a une grosse génération d'écart, Jean-Luc. Donc, vous pincez qui vous voulez.
C'est sûr et certain. Vous n'étiez pas né en octobre 1980?
En octobre 80, oui, j'étais né, pourtant.
Bon, voilà, donc vous avez plus de 40 ans, vous avez menti, voilà, parce que la deux chevaux, Charleston, fête ses 40 ans. On a Denis Huil avec nous pour en parler. Bonjour Denis.
Bonjour Denis.
Directeur du développement de l'aventure Peugeot Citroën DS.
Bonjour Jean-Luc, bonjour François.
Bon, ça fait plaisir de parler d'un sujet qui est un peu souriant dans une actualité qui n'est pas forcément d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, parce que la deux chevaux, elle ne laisse pas indifférent et puis elle a un capital sympathie vraiment très fort. Depuis sa naissance en 1948.
Voilà, et puis alors celle-là a un capital sympathie encore plus fort, puisque au départ c'était une série limitée normalement à 8000 exemplaires, et ça a eu tellement de succès qu'on a décidé de la produire en série.
Oui, tout à fait. Citroën se pose des questions en 1979, il y avait eu la deux chevaux spot en 76, et puis les ventes baissent un petit peu, et là l'idée revient de faire une série limitée vraiment novatrice. Ça sera la deux chevaux Charleston, qui a tellement de succès que Citroën, quelques mois plus tard, l'inscrit au catalogue permanent. Et d'ailleurs, la dernière deux chevaux produite en 1990 sera aussi une Charleston.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Charleston, elle a quoi de particulier par rapport à une deux chevaux standard?
Alors, pour une deux chevaux Charleston, on part d'une deux chevaux 6 club, et elle a surtout des couleurs elle est bicolore, d'abord rouge de l'âge et noir, puis elle passera en jaune hélios noir, et puis gris cormoran, gris nocturne, et elle est chic, je dirais, dans sa finition. Elle aura dans la série permanente les phares chromés, un intérieur aussi gris, tout à fait chic. Et donc, du coup, je dirais, elle a presque un petit côté premium pour cette deux chevaux.
Et puis, il y avait l'aspect rétro, puis c'est pour ça qu'elle s'appelle Charleston. D'ailleurs, il y avait j'allais dire découpe, c'est pas une découpe, mais dans la décoration, le bas des portes, ça faisait un petit peu, ça faisait voiture hippomobile presque.
Oui, on fait un petit clin d'œil, Charleston, aux années 20, et puis aussi, on fait un clin d'œil aussi à la TPV, le projet de chevaux TPV, toute petite voiture, avec ce sticker, ça reprend la découpe des portes de cette deux chevaux qui devait être présentée en 1939.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été produite quand même pendant beaucoup d'années, mais qu'il y a eu zéro modification sur la voiture, tellement elle plaisait.
Oui, il y a eu des petites évolutions, mais mineures, comme par exemple, on a eu le passage avec les freins à disque en juillet 81. Mais c'est vrai que la deux chevaux Charleston, de 80 jusqu'à 90, elle a peu évolué. Et c'est aujourd'hui une deux chevaux qui est très collectionnée, et celle qui atteint quasiment des records en termes de prix de vente, surtout quand il y a pas mal de concessionnaires qui en ont gardé des deux chevaux Charleston à 0 km, et du coup il y a quelques-unes qui se sont vendues récemment, et on atteint des chiffres, des fois ça dépasse les 20 000 euros.
Ah, ça dépasse les 20 000 euros. J'imagine aussi qu'il y a une différence de prix entre la vraie série limitée de départ et celle qui a été produite par la suite.
Oui, il y a une différence de prix, mais alors déjà la vraie série limitée, elles ont roulé depuis sur les 8000, donc c'est dur d'en trouver vraiment une.
Comment on les reconnaît d'ailleurs, cette série limitée?
On les reconnaît tout de suite parce qu'elles ont le cuvelage des phares et la couleur rouge de l'âge, et l'intérieur du revêtement des sièges est pied de coque. Donc alors que la série normale, l'intérieur est gris et le cuvelage des phares est chromé.
D'accord. Donc ça vaut combien une vraie série spéciale et ça vaut combien une, on va dire, une Charleston normale, hein, sans parler de celle 0 km qui dépasse 20 000 euros?
Ben, je dirais, une normale, ça vaut à peu près, ça peut monter jusqu'à 14 000 euros. Avec un kilométrage déjà qui est, je dirais, qu'elle a déjà un petit peu vécu, mais en bon état. Hein. Et une série limitée, il faut rajouter à peu près 2 000 euros de plus pour en trouver une en bon état. D'ailleurs, moi, je dis toujours sur une deux chevaux, vaut mieux mettre un petit peu plus au départ parce qu'après, vous êtes tranquille. Et bien qu'on trouve toutes les pièces pour les refaire, c'est ça aussi l'intérêt de la deux chevaux, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pièces pour pouvoir l'entretenir et la faire rouler, bien sûr.
Ouais, on trouve beaucoup, d'ailleurs, des Charleston aujourd'hui, d'occasion. Il y en a eu combien de produites ?
Eh ben, c'est bien le problème. J'ai pas le chiffre exact, Jean-Luc, à vous donner. C'est quelque chose qu'on est en train de rechercher, justement. Ça m'a donné un peu, ça m'a donné une idée de rechercher parce que autant les séries limitées, on sait bien les chiffrer, autant après dans les séries permanentes, c'est moins évident de retrouver dans les données des constructeurs le chiffre exact. Mais c'est quelque chose, je reviendrai vous en parler parce que c'est intéressant à savoir combien il y en a eu exactement. À la fois en France, mais aussi dans d'autres pays, bien sûr.
C'est fiable, une deux chevaux ? Si ceux qui nous écoutent, là, qui se disent « Tiens, c'est le moment, justement, ça y est, ça m'a convaincu, je vais m'acheter une deux chevaux pour me faire plaisir. » Ça sera, comme disait François, la Madeleine de Proust. C'est un véhicule fiable ?
Ah oui, c'est un véhicule fiable. Oui, c'est un véhicule, je dirais, simple, fiable. Il suffit de, comme on faisait autrefois, de regarder les niveaux, de l'entretenir régulièrement. Mais en plus... on roule pas très très vite, donc on a vraiment l'opportunité d'apprécier le paysage et puis surtout, comme je dirais, d'attirer la sympathie des autres constructeurs, utilisateurs de la route, parce que finalement, même si on va pas très vite, on nous klaxonne jamais, ou au contraire, on nous regarde avec intérêt.
Ouais. Ça fait quoi d'ailleurs comme puissance ce modèle-là ? C'est la plus puissante des deux chevaux, on est d'accord.
29 chevaux
dix. Oh là, voilà, c'est énorme. Voilà. Ah ouais.
Mais à peine 600 kilos.
D'accord, voilà. Ah oui, donc ça roule quoi ? 130 quand même ?
Non, non, c'est 110, 115.
Oula, 100, voilà.
Et en descente ?
Non. Oui, et puis il fallait se faire aspirer pour doubler, oui. Mais en tous les cas, c'est un esprit de la deux chevaux, parce que comme disent les collectionneurs, c'est pas une voiture, c'est un art de vivre. Voilà.
Oui, c'est vrai. Il y a des événements, malgré la conjoncture, là, qui sont prévus pour fêter cet anniversaire.
Ça va être compliqué, à mon avis.
Non, oui, comme dit François, c'est compliqué. Après, j'avais envie de vous dire, venez au Conservatoire Citroën. On en a pas mal, des deux chevaux en exposition, mais malheureusement, on est obligé de refermer, là. Et non, si ce n'est en regardant des livres, en regardant des infos sur le net, c'est difficile pour l'instant de faire des événements. Par contre, rien ne vous empêche, si vous avez une deux chevaux, d'aller faire vos courses avec. Hein.
C'est vrai. Moi, si j'avais de la place, hein, je crois que je craquerais sur une Charleston noire.
Ouais. Rétrofitée ou pas ?
Je sais pas, en fait. Je sais pas.
En tout cas, c'est dans l'air du temps, oui. On en a parlé tout à l'heure.
Pourquoi pas ?
Et même là, l'aventure Peugeot Citroën DS, on y réfléchit, là, on regarde justement cette voie du rétrofit également.
Mais avec le couple du moteur électrique, je me demande si la carrosserie s'envolerait pas. Je vous taquine, hein, Denis. Hein,
non, c'est non, pas non, méchant. Vous savez, elle a des capacités de franchissement assez étonnantes, hein, parce que les deux chevaux, elles ont été dans le monde entier, notamment grâce aux raids qu'il y a eu en Afrique et dans d'autres pays un peu exotiques. Et elle s'est toujours bien comportée.
Oui, ben, d'ailleurs en Afrique, puisqu'on en parle en Afrique, vous savez que comment s'appelait-il d'ailleurs le publicitaire qui avait fait le raid en Afrique, Denis, aidez-moi. Ah, Jacques Seguela. À un moment, ils n'avaient plus d'huile dans le moteur, ils ont mis des bananes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Et ça marche avec des bananes pour lubrifier.
C'est dingue.
C'était en 59, donc ça remonte un petit peu.
Denis, merci beaucoup.
Merci, Denis.
Merci, bonne journée à tous.
Au revoir.
Voilà pour la Charleston, 8h36. William est avec nous au 32-16. Bonjour William.
Bonjour Jean-Luc, bonjour François.
Bonjour William.
Bienvenue William, on vous écoute.
Merci, je suis très content de pouvoir passer à l'antenne. Alors du coup, j'avais une question actuellement. J'ai une Golf 7 TDI 150 chevaux. Je suis commercial, je fais 30 000 km par an à peu près. Sachant que la Golf 7 a actuellement 240 000 km et il faut que je la change. Et du coup, je me posais la question s'il était rentable de changer pour une hybride rechargeable ou une totalement électrique, sachant que par ma société, je suis remboursé, enfin j'ai un barème kilométrique où je suis remboursé à 54 centimes du kilomètre, et du coup l'intérêt serait d'avoir un confort sympathique tout en ayant une rentabilité maximum des kilomètres que je fais.
Bah alors, je serais tenté de vous dire, ça va dépendre un petit peu du type de trajet que vous faites, parce que vous me dites, je fais 30 000 kilomètres par an. Si vous faites 30 fois 1000 kilomètres, conservez un diesel. Maintenant, si vous roulez tous les jours, beaucoup, sur des types de trajets qui ne soient pas autoroutiers, pourquoi pas changer ? Bon, après, vous êtes vraiment dans le cadre, on va dire, des gros rouleurs. D'ailleurs, votre Golf 7, 240 000 km, ça prouve, vu son kilométrage élevé, ça prouve que vous l'utilisez dans de bonnes conditions. Des conditions où le diesel va être à l'aise, c'est-à-dire des trajets où elle a le temps de chauffer, suffisamment de kilomètres, pas trop d'agglomération, j'imagine. Donc, vous faites quoi comme type de parcours ?
Je fais 80 à 100 km par jour, mais 75 à 80%, c'est sur autoroute.
D'accord. Ouais, donc de l'électrique, c'est pas forcément la bonne solution, hein. Parce que de l'électrique sur autoroute, la consommation s'envole assez vite. Donc quand on dépasse pas
quelle vitesse on va.
Voilà, oui. Quand on dépasse pas 110 km/h, ça va. Si vous roulez à 130, l'autonomie fond comme neige au soleil. Donc si vous faites, vous m'avez dit combien par jour
100 km pour compter l'arbre.
Ah oui, non, mais alors, 100 km, ça peut passer en électrique. Vous êtes en maison individuelle ?
Exact.
Vous avez la possibilité donc de faire installer une wallbox, donc un moyen de charge un peu plus rapide. Et, ouais. Et pourquoi pas à ce moment-là, ouais, une Golf électrique, tant qu'à rester chez Volkswagen ou une ID3 ou une ID4. Vous avez vu les nouvelles.
C'est exactement ce que je pensais. En plus, le design est plutôt pas mal. Après, je vous avoue que utilisant ma voiture pour les vacances aussi, où je fais peut-être deux fois dans l'année des gros trajets à 1000 km. Ce qui n'est pas très grave, mais du coup, j'avais pensé à une Golf...
Hybride rechargeable hybride.
Ouais, c'est ça, mais en fait, la concession m'a dit...
Non.
Une fois que les batteries étaient vides, j'étais à une consommation ahurissante.
Oui, vous allez être plus que votre diesel, ça c'est clair. Non, dans votre cas, soit vous basculez sur l'électrique pour effectivement la rentabilité, mais on va quand même... On va aussi parler de l'aspect environnement. Hein. Vous polluerez quand même beaucoup moins avec la voiture électrique. Donc, mais pour vous, ça sera très rentable en termes de kilomètres parcourus, parce que si vous remboursez 50 centimes du kilomètre, alors que là, ça va vous coûter, allez, on va dire 2,50 € pour 100 kilomètres. Ça va vous faire une source de revenus qui est pas négligeable. Et puis, avec les économies que vous allez faire, pour les deux fois où vous partez dans l'année en vacances,
vous louez
une voiture.
Oui, c'est ça.
Et ça vous coûtera moins cher au final que de prendre un hybride rechargeable. Donc,
Après, tout dépend combien de temps vous partez en voiture. Parce que louer une voiture à moi, si vous le faites, après, c'est. Si
ouais, je trouverai toujours le moyen de me faire prêter une voiture dans le pire des cas.
Voilà.
Dans ma famille, on a pas mal de voitures qui dorment dans les garages, malheureusement. Donc,
Si c'est pas un problème, foncez sur l'électrique.
Hein. Ouais, ne faites pas le choix en fonction de vos deux départs en vacances dans l'année. Ça serait un petit peu idiot.
C'est exactement ce que je me faisais comme réflexion.
Voilà, ça vous trouverez toujours une solution. Maintenant, si au quotidien, en plus vous avez vu, Volkswagen sur les nouveaux modèles électriques propose différentes solutions de batterie. Donc vous avez trois niveaux d'autonomie qui sont proposés, hein, avec des batteries plus ou moins grosses. Bon, ça, c'est évidemment, ça modifie le tarif. Vous avez alors l'ID3. Moi, je la trouve pas. J'ai pas roulé avec encore. Hein, je vais. Mais le parc presse Volkswagen n'est pas fermé, donc je pense que je vais en prendre une prochainement pour vous dire ce que j'en pense. Et l'ID3 est pas, je trouve pas d'un design extraordinaire. Par contre, l'ID4, qui est la version SUV entre guillemets, qui arrive en début d'année prochaine, est un peu plus sexy. Ça peut être un.
Après, il faut une autonomie quand même.
Ça peut être un bon choix. Oui, non, mais là, vous avez des autonomies qui vont jusqu'à 350 km. Donc, s'il fait 100 km par jour, ça vous laisse de la marge quand même. Hein.
Ah oui, c'est exactement ça. Et du coup, vous avez répondu à ma question plus ou moins, parce que je me posais la question du coût du kilomètre à l'électrique, en fait.
Ça dépend de votre abonnement électrique à la maison. D'ailleurs, vous avez tout intérêt peut-être à le renégocier si vous passez à l'électrique, pour avoir un abonnement avec des heures creuses plus intéressantes. Hein, parce que vous avez aujourd'hui plusieurs fournisseurs d'énergie. Il y en a qui vous proposent des heures creuses qui sont vraiment à un prix très bas. Et comme vous allez charger votre voiture la nuit, ça sera l'essentiel de votre conso électrique, vous pouvez même peut-être arriver à réduire encore ce budget.
D'accord, ok. Eh ben, merci beaucoup pour ces réponses, en tout cas.
Merci, William.
Merci, William.
Je vous souhaite une bonne continuation.
À bientôt.
Et votre émission, à bientôt.
À merci, bientôt, au William. Au revoir. Hassan, dans un instant, après la pause, il aimerait avoir des infos sur la nouvelle Nissan Leaf. Puisque visiblement, la Nissan Leaf est en promo, Jean-Luc, en ce moment.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, alors.
C'est une bonne nouvelle. Et tiens, j'aurais une petite anecdote à vous raconter concernant la Nissan Leaf dans quelques instants.
C'est croustillant ou pas ?
Non, pas du tout. Oh, bon, pas alors, du tout, pas du tout. Non, 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 non.
Non, ça nous intéresse pas.
Oh, vous êtes pas gentil. Et puis, l'essai de la semaine, Jean-Luc, la Renault Mégane E-Tech. Hybride rechargeable, c'est dans un instant tout cela sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau.
9h moins le quart, le retour du week-end des experts d'automobile. L'essai de la semaine dans un instant. Et tout de suite, Hassan qui nous attend au 32-16. Bonjour Hassan.
Et bonjour messieurs.
Bienvenue Hassan.
Merci.
Bonjour
merci,
Hassan. Merci.
Alors, on va parler de Nissan Leaf avec vous. Juste, moi, j'avais une petite anecdote. J'ai pris un VTC il n'y a pas si longtemps que ça et je vois arriver donc un Nissan Leaf. Alors, j'étais tout content. J'ai commencé à discuter avec le chauffeur qui m'expliquait que grâce à l'accumulation de toutes les aides, Jean-Luc, qu'il a pu avoir, il avait eu... En fait, c'était un VTC. Donc, il cumulait déjà toutes les offres, enfin, toutes les baisses, tous les bonus qu'on peut avoir, nous. Oui. Mais en plus, il y avait un bonus spécial VTC, un bonus spécial Uber. Enfin, il faut savoir que les plateformes de VTC donnent de l'argent quand les chauffeurs passent à l'électrique.
On en avait parlé, d'ailleurs. Vous savez, en Île-de-France, on peut avoir jusqu'à 15 500 euros,
et bien voilà,
de bonus
donc,
quand même.
Lui, il est dans l'Île-de-France et il m'expliquait que chaque année, il économisait 8 500 euros de carburant avec sa Nissan Leaf. Et en fait, tous les soirs, il a branché en fait un centre commercial qui était à côté de chez lui, où il y avait des bornes gratuites, et ça lui coûtait rien du tout. Et il avait assez d'autonomie pour travailler toute la journée. Voilà. Donc c'était très intéressant. Hassan, alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir sur la Leaf ?
Eh bien, je pense que je vais me chercher un petit véhicule électrique pour l'économie, mais aussi pour la planète, évidemment. Et les Tesla, je crois que c'est pas du tout dans mon budget. Ça va être compliqué. Oui.
Alors attendez, mais petit, en plus, la Leaf, c'est pas une petite voiture, hein. C'est quand même une voiture de taille moyenne, on va dire.
Alors, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir, justement. J'ai essayé d'aller chez un
concessionnaire. Ah, vous l'avez pas vu. Attendez.
Je serais tenté de vous dire, restez sur une bonne impression.
Mettez le masque. Pas voir. Mais quand vous allez l'avoir, mettez le masque, mais sur les yeux. Hassan.
Elle n'est pas si moche que ça.
Elle n'est pas aussi moche que la première.
Mais enfin, bon, d'accord.
Elle n'a pas un physique facile non plus.
C'est ça, oui. Mais elle est attachante.
Mais par contre, elle a deux qualités. Le moteur, super sympa. D'abord, 150 chevaux, donc ça a la pêche. Je ne sais pas ce que vous conduisez actuellement, mais ça va sans doute vous paraître être un dragster par rapport à la voiture que vous avez. Et puis, c'est la plus confortable des voitures électriques, hormis Tesla.
Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Parce que, justement, sous les tests que j'ai pu apercevoir par-ci, par-là, il parlait d'un confort de route un peu spécial quand les routes n'étaient pas... ultra vite.
Ah, complètement dégradé. Oui, non, mais alors ça c'est le problème des voitures électriques parce qu'en fait vous avez un poids qui est important. Alors le centre de gravité est assez bas, mais vous avez un poids important et c'est vrai quand on va prendre l'exemple, hein, ça va faire plaisir à Thierry Modolo qui nous écoute, mais quand vous attaquez les ralentisseurs avec une voiture électrique, ça tape beaucoup plus fort qu'avec une voiture standard. Ça c'est un vrai problème. Peut-être qu'un jour d'ailleurs, il faudra en parler. À moins d'avoir le nouveau Hummer électrique, en plus le châssis, le dessous du châssis est blindé. Ça serait génial. Ça 40 cm de débattement de suspension. Je pense que vous pouvez passer les ralentisseurs sans ralentir justement.
Ah, moi, c'est pas forcément des problèmes de ralentisseur. En fait, sur mon trajet quotidien, j'ai 65 km aller.
Oui.
J'ai 30 km de voie rapide et un peu de route vallonnée.
Oui, mais alors ça passe sans problème sur l'autonomie de la Leaf. Vous pouvez recharger chez vous ?
Alors, chez moi, je peux. Et sur mon lieu de travail, juste en face, il y a une borne ZDO.
Oh, bah alors.
Donc, c'est super.
Ouais,
mais moi,
ouais,
ce qui m'inquiétait surtout, c'était surtout le côté confort. Sur cette fonction de route qui n'est pas...
Non, c'est hormis, comme je vous disais, là, sur les grosses aspérités, typiquement le ralentisseur, où ça tape un peu plus fort. Pour le reste, franchement, moi, je trouve que c'est une voiture confortable. C'est plus confortable qu'une Zoé, par exemple.
D'accord, parce que là, je suis sur une C4 ASDI 90 qui est à 480 000 maintenant. Donc, je pense que ça va commencer à piquer au niveau des frais. Et voilà, donc comme je disais dans le petit message, la Nissan actuellement, il la propose à 16 000 euros avec les aides de l'État.
Oui, alors si vous pouvez, Nissan. Vous avez vu, attention, il faut pouvoir bénéficier des 5 000 euros de prime à la conversion pour avoir les 16 000 euros.
Je vais renseigner sur la possibilité. Et c'est la version de base, donc moi je pense que c'est largement suffisant par rapport à un véhicule que je vais avoir.
Attendez,
ça va être déjà un saut technologique énorme. Ouais,
17 000 euros pour un véhicule électrique, vous voyez qu'on arrive petit à petit à des tarifs qui sont, attention, hein, c'est quand même une catégorie de voitures qui tourne entre 20 et 30 000 euros même en modèle thermique. Donc en fait, on peut avoir un modèle électrique avec toutes les aides à un prix inférieur à celui d'un modèle thermique. Et il faut préciser également que sur les Nissan, la batterie est incluse. Donc vous n'avez pas de location de batterie tous les mois. Donc achetez la voiture, et point final.
C'est ce qui m'avait aussi intéressé, justement, de ne plus avoir de loyer ou quoi que ce soit derrière. Parce que là, j'ai fait un calcul rapide. J'en ai pour... le carburant n'est pas trop cher en ce moment, mais je fais en gros 2 pleins par mois pour mes trajets. Mais là, ça va être, ça va rien avoir. Ça va être un tarif.
C'est sûr que ça sera moins cher. Non, mais il ne faut même pas calculer comme ça. Il faut aller chez Nissan quand même et demander à faire un essai. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de problèmes pour arriver à essayer ce genre de voiture. Et vous allez voir, c'est surtout le côté très agréable à conduire. C'est ça, surtout. Et plus, ça sera plus agréable que votre voiture actuelle.
Voilà Hassan, merci en tout cas pour votre appel. Allez, il est temps de retrouver l'essai de la semaine, Jean-Luc. Et l'essai de la semaine, c'est la Renault Mégane E-Tech hybride rechargeable.
Exactement, version hybride rechargeable disponible pour l'instant uniquement en break. Pourquoi pas? Parce que la berline arrive en 2021. La Mégane en effet fait l'objet d'un restylage. C'est pas une révolution, hein. On peut distinguer les anciens modèles, en particulier avec le nouveau graphisme des feux arrière, mais c'est un peu le jeu des 7 erreurs. Arriver à reconnaître la nouvelle Mégane. Bon, alors à l'intérieur quand même, alors j'ai peut-être été un peu méchant, le restylage rehausse la qualité perçue. Et puis vous avez enfin un nouvel écran multimédia EasyLink qui fait 9,3 pouces, qui est plutôt intuitif, ça c'est bien, parce que l'ancien l'était moins. Et puis
c'est le même que celui de la Zoé? La Zoé 2?
Non, je crois qu'il est plus grand.
Il est plus grand, d'accord.
À vérifier, mais je crois qu'il est plus grand. Alors, un compteur numérique aussi. Bon, bref, la présentation est plus soignée. Vous avez aussi un bloc climatisation qui est plus intuitif. Enfin, bref, ça progresse à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Alors, il faut préciser aussi que le châssis a été modifié pour intégrer la batterie et qui ne fait pas perdre en habitabilité, si ce n'est au niveau de la capacité du coffre, qui perd 74 litres. Alors, ce n'est pas catastrophique dans le sens où les 74 litres perdus, c'est ce qu'il y avait sous le plancher du coffre. Et là, c'est utilisé en particulier pour mettre le câble, etc. etc. Le coffre reste sur un break, on va préciser, à 447 litres. Ce n'est pas énorme dans la catégorie. Alors, le réservoir voit lui aussi sa capacité passer à 39 litres. Là, par contre, c'est peut-être le truc qui coincera pour ceux qui veulent faire de l'autoroute.
39 litres, c'est pas beaucoup.
Ouais, c'est un peu juste pour les parcours autoroutiers, même si la voiture consomme pas beaucoup, on le verra plus loin. Bon, la mécanique, c'est la même que celle du capture hybride plug-in dont on a déjà parlé. Un moteur à essence, 4 cylindres, 1,6 litre de 91 chevaux d'origine Nissan et deux moteurs électriques, un moteur de 66 chevaux pour la traction et un moteur de 34 chevaux qui fait office de générateur. La puissance totale, c'est 160 chevaux et vous avez bien évidemment, alors je rentre pas dans le détail de la transmission, hein, de la fameuse boîte de vitesse avec des crabots, etc. Si vous avez envie de vous passer un bon petit moment, vous irez voir sur le site Renault comment ça marche et puis on en reparlera ensemble. Donc batterie de 9,8 kWh, la promesse de Renault c'est 50 km en électrique. Alors,
est-ce qu'on y arrive ?
Est-ce qu'on fait les 50 km en électrique ? On va garder un peu de suspense. Bon, déjà, dès les premiers tours de roue, ce break Mégane hybride, moi, m'a paru un peu lourd. Je descendais de la Clio hybride, qui est quand même assez légère.
Oui.
Et là, je l'ai trouvée un peu pataude. Pourtant, elle ne l'est pas. Hein. Vous allez voir plus loin, mais elle affiche 200 kg de plus que la version équivalente diesel. Ça fait 1600 kg au total.
Ça commence à faire un gros bébé. Hein.
Ça commence à faire lourd. Ça se ressent plus dans le comportement que dans les performances. Hein. D'ailleurs, au chapitre comportement, le tarage de suspension m'a semblé un peu raide, en particulier... On en parle un instant sur les ralentisseurs où ça tape un petit peu. Tout ça pour un véhicule à vocation familiale. Alors, avec le mariage du moteur thermique et des moteurs électriques et grâce à la fameuse ingénieuse boîte à crabeaux, hein, dont le fonctionnement est automatique, donc oubliez-la. Oubliez-la, c'est que de la technique. La douceur de conduite, elle est remarquable et les accélérations sont franches. On démarre systématiquement en électrique même lorsque la batterie est vide, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est jamais complètement vide, ah, puisque oui, vous avez le fonctionnement hybride. Alors, d'accord, vous allez me dire, avant d'arriver à ce stade où elle est vide, entre guillemets, on a fait combien de kilomètres en électrique ? C'était,
c'était la question,
l'interrogation du début.
Eh oui.
Eh bien, moi, j'ai réussi. Alors, c'est un parcours, j'ai fait un peu d'autoroute à 130 km/h.
À 130 ?
Ouais, j'ai fait de la route à 80 et j'ai traversé des villages. Donc on peut considérer que j'ai fait un parcours typique de quelqu'un qui a travaillé le matin. J'ai réussi à faire 47 km en 100% électrique pour 50 km annoncés. Donc on va dire que le contrat est rempli. Bon, si vous faites que de l'autoroute, vous ferez que 30
km. Et on dit à 130.
Et j'ai roulé, mais une petite portion, j'ai dû faire 10 km à 130.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, mais si vous faites vraiment que de l'autoroute, vous ferez 30 km. Mmh. Et si vous faites que de la ville,
on dépassera les 50.
Vous serez sans doute à 55 km. Donc le contrat est rempli. Ensuite, la voiture, c'est une hybride une fois qu'on a vidé, entre guillemets, la batterie. En circulation normale, pareil, j'ai consommé 6 litres au 100. Bon, l'intérêt, bien sûr, c'est de recharger. Sinon, on balade une grosse batterie. Elle pèse 100 kg, la batterie, hein, pour rien. En revanche, là où Renault a fait un peu petit bras, c'est qu'ils ont mis un chargeur embarqué d'une capacité de seulement 3,6 kW. Il faut donc compter 3 heures au minimum sur une wallbox et 5 heures sur une prise standard pour recharger. Vu la capacité pas trop importante de la batterie, ils auraient pu faire un petit effort de ce côté-là. Ils ont eu, en revanche, là où ils sont allés un peu plus loin, c'est côté tarif, c'est bête. Ça démarre à 38 500 euros en finition intense et 40 500 euros dans la finition RS Line de notre modèle d'essai. Bon, malgré les 2000 euros de bonus écologique, la carte grise gratuite et l'absence de TVS pour les entreprises, c'est un modèle qui est assez difficile à rentabiliser. Un bon Clio Blue DCI 115 EDC, donc avec la boîte automatique, qui est certes moins puissante, coûte 5 500 euros de moins, 3 500 euros de moins en tenant compte du bonus écologique. Donc pour les gros rouleurs, c'est pas une solution. Ça reste une solution pour celui qui va faire des trajets mixtes, c'est-à-dire une petite partie de route et qui va avoir besoin de rouler en agglomération pendant un petit moment.
Voilà pour cette Mégane hybride. Jean-Luc, on va revenir dans quelques instants après la météo et les infos. Tiens, on a peut-être le temps de se faire une petite brève.
Oui, allez-y.
Et évoquer les ventes de véhicules électriques qui décollent en Europe. Ça, on le voit, mais il n'y a pas assez de bornes de recharge.
Ouais, les ventes de véhicules électriques et hybrides progressent fortement sur le vieux continent, mais le nombre de bornes de recharge ne suit pas comme cela devrait. Développer le marché des voitures électriques, c'est bien, mais avoir de quoi les recharger, c'est encore mieux. L'Association des constructeurs européens d'automobiles, la CEA, vient d'exprimer dans un communiqué sa vive inquiétude quant à une offre de bornes largement insuffisante sur les routes européennes au regard de la forte augmentation des immatriculations de voitures branchées stimulées par les aides de l'État. La CEA souligne notamment que les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont augmenté de 110% ces trois dernières années. Le nombre de bornes, lui, a augmenté de 58%, restant tout de même au-dessous de la barre des 200 000. On parle de l'Europe, ce qui témoigne d'un gros retard dans les investissements pour les infrastructures de recharge. En 2019, 3% des voitures vendues en Europe étaient électriques ou hybrides rechargeables, une part qui progresse désormais très vite. Par exemple, en France, début 2020, ces modèles représentent plus de 9% des ventes. Il y a un autre problème aussi qui a été pointé par la CEA, c'est l'allure de charge des bornes. Il y a beaucoup de bornes qui sont en voirie qui proposent 3,7 kW de puissance. Or, pour des batteries qui vont faire 100 kWh, c'est complètement ridicule. Donc, il faut de la charge rapide ou ultra rapide et c'est ça qui va coincer vraiment demain. On imagine, s'il y avait beaucoup de voitures électriques, il y aurait une queue aux stations-service pour faire le plein
de recharge.
Il y a
les bornes à domicile.
Oui, complètement.
Mais
pour aller plus loin, ça suffit pas.
Jean-Luc, la météo, les infos de 9h et on est de retour pour notre dernière partie de ce rendez-vous auto sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto.